Bonjour, cher auditeur.
Bienvenue sur RVM.
Nous sommes les élèves de la classe de CMA de l'école des remparts de Verberie.
Nous vous présentons le second numéro de notre émission.
Dans le cadre d'un défi scientifique sur le thème « Ma planète et moi », nous avons travaillé sur trois articles issus d'un blog écologique qui a pour nom « Sauvons la planète ».
Nous avons interviewé un expert en biodiversité, M. Marc Baldec, le directeur des CPIE des Pays de l'Oise, afin d'approfondir et de mieux comprendre ces articles.
Le sommaire est terminé, ça tourne. On vous souhaite une bonne émission.
Bonne émission!
Les rois de la radio!
Avant de commencer l'interview, pourriez-vous, s'il vous plaît, vous présenter? Vous êtes le directeur des CPIE des Pays de l'Oise. Que veut dire CPIE ?
Oui, bonjour, donc je suis Marc Baldec, le directeur du CPIE des Pays de l'Oise. En fait, pour me présenter en quelques mots, eh bien, j'ai 40 ans, je suis marié, je suis père de deux enfants et j'habite Senlis. Le CPIE des Pays de l'Oise, c'est une association, loi 1901, qui s'occupe d'éducation et de sensibilisation à l'environnement. Alors, nous travaillons avec les écoles, avec le grand public, pour faire passer le message de l'importance de la protection de la nature, de la protection de l'environnement, et puis pourquoi il est agréable aussi de découvrir toute la faune et la flore de l'Oise.
Pourquoi dit-on Pays de l'Oise ?
Eh bien, notre association, c'est bien simple, elle travaille à l'échelle du département de l'Oise. Voilà, donc on est le CPIE des Pays de l'Oise. Il y a beaucoup de CPIE dans toute la France. Il y en a 7 dans la région des Hauts-de-France et plus de 70 dans toute la France.
Nous avons travaillé sur plusieurs articles. Les premiers étaient intitulés « Que faire de nos vieux téléphones ? Pourquoi doit-on recycler nos téléphones ?»
Eh bien, en fait, vous le savez, les enfants, tout le monde a un téléphone aujourd'hui. Et en fait, on s'aperçoit qu'on consomme de plus en plus de téléphones. Plus les téléphones sont modernes, moins ils durent longtemps. Et souvent, vos parents, certainement, s'en débarrassent tous les 2-3 ans. Et malheureusement, ces déchets, ils peuvent être très polluants. Alors, au lieu de les jeter n'importe comment, surtout pas dans la nature, ni même dans la poubelle, eh ben, il faut se poser la question, que va devenir mon téléphone ? Et donc, il faut essayer de le remettre à la structure pour qu'il soit retraité. Voilà.
Quelle solution existe-t-il pour recycler nos téléphones ?
Alors, il y a deux choses. Dans un premier temps, notre téléphone, on ne veut plus s'en servir, on veut en acheter un nouveau. Et s'il fonctionne encore, on peut peut-être le donner à une association qui va essayer de le réparer ou qui va essayer de le donner à quelqu'un qui n'a pas les moyens de s'acheter un téléphone. Ça, il y a la fondation Emmaüs qui travaille à cela. Donc, ça peut être très utile pour pas faire du gâchis de donner son vieux téléphone à quelqu'un qui en a besoin. Voilà, ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, eh bien, pour recycler les téléphones, eh bien, il faut les rendre à des sociétés spécialisées. Souvent, on va remettre son vieux téléphone aux entreprises qui vendent les nouveaux téléphones. Et puis, le téléphone, il va être mis dans une cagette et puis il va aller dans un centre de traitement des déchets. Ce n'est pas forcément évident de recycler les choses et surtout pas les téléphones. Pourquoi ? Parce que les téléphones, si vous avez déjà ouvert un boîtier, il y a une batterie, il y a un écran, il y a des circuits intégrés et tout est mélangé. Il y a du plastique, des métaux, il y a du verre et tout est collé, soudé et c'est extrêmement difficile à... Il est extrêmement difficile de séparer les éléments et de recycler réellement ces objets-là.
Recycle, c'est magique, c'est le cycle de la vie.
Recycle,
c'est magique,
faut pas que tu l'oublies.
Recycle,
c'est magique,
c'est le cycle de la vie.
Recycle,
c'est magique,
faut pas que tu l'oublies.
Enzo, dans l'article,
Il est question d'une démarche qui a pour nom écosystème, la connaissez-vous ?
Oui, je la connais. Elle est bien connue. Elle fait même des pubs à la télévision ou dans nos magazines. C'est en fait un éco-organisme, c'est-à-dire que c'est une société privée qui travaille dans un but non lucratif pour effectuer ce traitement de tous les appareils électriques et électroniques dont on souhaite se débarrasser. En fait, c'est les entreprises du secteur de l'électronique qui se rassemblent et qui sont obligées de s'investir pour retraiter les objets électroniques et électriques dont on souhaite se débarrasser, nous, les consommateurs.
Luna, pourquoi y a-t-il des métaux et des minéraux dans les téléphones ?
Eh ben, vous le savez peut-être pour avoir un petit peu joué ou vu le téléphone de vos parents. Eh bien, les téléphones, c'est comme des mini-ordinateurs. C'est des objets très perfectionnés. Moi, quand j'avais votre âge, on ne pensait pas qu'il allait avoir des téléphones comme ça. Eh bien, à l'intérieur de ces téléphones, je vous le disais qu'il y a plein de petits composés électroniques. Il y a des circuits intégrés. Il y a un écran tactile. Et pour fabriquer ces téléphones, on a besoin de matières premières et de métaux ou de sable, de la silice, pour faire fonctionner cet appareil. Et on utilise parfois des métaux qui sont très précieux, comme l'or, et même des métaux qui ne sont pas très connus, mais qui sont encore plus rares que l'or, qui sont encore plus chers que l'or, c'est ce qu'on appelle les terres rares. Et c'est vraiment des choses qui sont difficiles à trouver sur Terre. Il y en a très très peu. Et heureusement, on n'en a pas besoin de beaucoup pour chaque téléphone. Mais comme on construit beaucoup, beaucoup de téléphones, eh ben, ça fait des quantités quand même de métaux rares qui sont importantes pour les besoins de la construction de téléphones. Et le problème, c'est que ces terres rares, ces éléments chimiques, ils sont de plus en plus difficiles à trouver. On commence à épuiser nos ressources.
Tom, que pensez-vous des sites de déchets électroniques qui existent ? Pourquoi existent-ils ?
Donc, je vous le disais, les téléphones et les appareils électriques, ils sont bourrés de composants en plastique, bourrés de composants avec des métaux, avec de la colle. Il y a plein de choses dedans et souvent, c'est très polluant, notamment les batteries. Parce que souvent, à chaque téléphone, il y a une batterie. Et les batteries, c'est fait avec des métaux que l'on qualifie de métaux lourds qui, lorsque on les laisse dans la nature, avec l'eau, vont rouiller et ça va polluer les sols et l'eau. Donc, il est très important que tous ces déchets-là, les téléphones, tous les objets électroniques, ils ne soient pas jetés n'importe comment, mais qu'ils soient rassemblés dans des sites de déchets où on va les traiter correctement. Alors, ça veut dire quoi, traiter correctement un déchet ? Eh ben, ça veut dire, à minima, les stocker et faire en sorte que ça ne pollue pas l'environnement proche du site. Donc, on va essayer d'isoler l'endroit où on va les enfouir, donc les mettre dans le sol, pour pas que l'eau vienne et que ça pollue le sol et l'eau qui est dans les sols. C'est ce qu'on appelle les nappes phréatiques.
Tom, que deviennent les objets qui ne sont pas recyclés ?
Eh bien, je vous le disais, il y a des objets qui sont très difficiles à recycler et du coup, on est obligé de les stocker dans ces centres de déchets. C'est les déchetteries, les centres de stockage. Alors, dans le meilleur des cas, les objets qui ne sont pas recyclés, ils sont entassés dans ces décharges. Dans le pire des cas, malheureusement, il y a des gens qui les abandonnent dans la nature. Et ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire. Quand on les abandonne dans la nature, bah souvent c'est dans les pays pauvres, malheureusement, où il n'y a pas un gouvernement suffisamment bien organisé pour faire la police ou pour mettre des sous dans ces structures de gestion et de traitement des déchets. Mais c'est sûr que si ces déchets qui ne sont pas recyclés sont jetés n'importe comment, ça va occasionner des dommages très importants à la nature. Hein. Ça va polluer les sols, ça va polluer l'eau et même l'air.
Les rois de la radio.
Petite pause musicale. On va écouter Slimane avec Viens on s'aime.
Ils pourront tout nous enlever, ils pourront bien essayer de nous monter l'un contre l'autre, à contresens pour qu'on se vautre. Ils pourront nous raconter qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé. Ils pourront pointer du doigt
pointer l'amour coupable de quoi. Viens, on sait. Viens, on sait. Allez, viens, on sait. On s'en fout de leur amour, de la bienséance. Viens, on sait. Pas belle, priez pour qu'on abandonne, qu'il y ait une nouvelle donne. Ils pourront bien nous avoir, le temps d'un doute, le temps d'un soir. Mais après la peine et les cris, sèche les larmes qui font la pluie. Viens, on s'aime. Viens, on s'aime. Allez, viens, on s'aime, on s'en fout de leur amour, de la bienséance. Viens, on s'aime. Idées de ce qu'ils pensent. Viens, on s'aime et c'est tout. On fera attention dans une autre vie. Viens, on s'aime, on est fou. Encore un jour, encore une nuit.
Vous écoutez la classe de CM1 de l'école des remparts de Verberie.
Ils ont interviewé M. Marc Baldeck, directeur des CPE de l'Oise.
Merci de nous écouter.
Lucas Riquero. Le second article avait pour titre « Quelles sont les alternatives aux emballages plastiques ?» Que veut dire l'ADEME ?
Alors l'ADEME, c'est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. C'est une agence d'État qui s'occupe des questions d'environnement et de maîtrise de l'énergie. C'est-à-dire qu'elle travaille pour accompagner les entreprises, le grand public ou tous les acteurs de la vie civile, donc les villes, les agglomérations, pour une meilleure prise en compte de l'environnement dans leurs pratiques. Et donc, elle est là en tant que structure conseil, où elle va parfois même développer des projets et donner des subventions pour, par exemple, isoler sa maison ou donner des conseils pour faire des économies d'eau, pourquoi il est important d'économiser l'énergie ou de trier les déchets. Voilà.
Pourquoi le plastique serait-il dangereux ?
Alors tout d'abord, il faut expliquer pourquoi le plastique, on en trouve partout. Parce que, comme dit la chanson, le plastique, c'est fantastique. Le plastique, c'est très pratique. On en fabrique très facilement avec du pétrole et on peut faire tout plein de formes. Donc c'est pour ça que l'homme, dès qu'il a su commencer à fabriquer du plastique, eh ben, il s'est pas arrêté là. On a commencé à faire des gourdes en plastique, des écouteurs en plastique, des stylos en plastique, des sacs plastiques, voilà. C'est très bien parce que c'est très pratique et c'est très utile dans notre vie de tous les jours. Mais le problème, et là où ça commence à poser un véritable problème, c'est qu'on en produit de trop du plastique. Et en plus, comme c'est facile à produire et que c'est pas cher, on a tendance à le jeter, à ne pas garder les objets en plastique très longtemps. Parfois même, ils sont jetables. Alors, ça, c'est un gros problème parce que le plastique, eh bien, c'est un produit qui est fabriqué à partir de produits chimiques et il n'est pas facilement biodégradable. Si on le jette dans la nature, les animaux, les plantes, les bactéries ne vont pas savoir quoi faire du plastique et il va mettre très longtemps à disparaître. Et ça, c'est un gros problème parce que plus on en produit, plus il y en a qui va aller dans la nature et comme il ne se dégrade pas, il va s'accumuler et il va créer des problèmes de pollution. On en reparlera. Deuxième chose, le plastique, potentiellement, parfois, comme c'est fabriqué avec du pétrole, avec des choses comme ça, ça peut être un peu toxique. Et pour certaines personnes, notamment les femmes enceintes ou les bébés, il vaut mieux pas qu'ils, par exemple, boivent dans un biberon qui est fait en plastique, avec un mauvais plastique, parce que ça peut les intoxiquer. Voilà.
C'est dès aujourd'hui qu'il faut penser à demain, que les erreurs d'hier restent bien hors du chemin.
Sana, quelle est sa composition ?
Tu parles certainement du plastique. Alors, la composition du plastique, alors, c'est un produit chimique, je vous l'ai dit. On peut le créer avec du pétrole, avec du gaz et du charbon. Après, je ne suis pas chimiste. Il faut mélanger tout ça. On fait chauffer et ça crée une polymérisation des molécules. C'est-à-dire qu'il y a les molécules de pétrole qui vont s'agglutiner d'une manière spéciale et qui vont créer du plastique, donc une matière un peu dure. Et après, les chimistes, ils ont su développer différents types de plastique. C'est pour ça qu'on a des sacs plastiques qui sont très fins et très souples. On a des plastiques comme catagourdes qui sont transparents et durs. On a des plastiques qui ne sont pas transparents. On a du polystyrène. On a toutes sortes de plastiques. Voilà.
Lucas Houssard, pourquoi seulement 24% du plastique est-il recyclé ?
En fait, on arrive à créer plein de plastiques différents qui répondent à nos besoins et à des applications. C'est-à-dire qu'on va créer des plastiques spécifiques en fonction de l'usage. Par exemple, des plastiques très très durs pour les pare-chocs de voitures, parce que si on a un accident, c'est bien pratique, on a un plastique dur. Et puis des plastiques très légers pour les bouteilles d'eau. Donc on fabrique plein de plastiques différents. Ils sont très utiles, mais il y en a dont on ne sait pas trop comment s'en débarrasser. On n'arrive pas à le recycler parce qu'on a créé quelque chose, un plastique d'un type spécial, et puis on n'arrive pas à le recycler, à en faire quelque chose d'autre. Voilà. Avec les bouteilles d'eau, ça, on sait faire. C'est pour ça qu'on vous dit, trier bien les bouteilles d'eau dans le bac jaune ou de les ramener, parce que on peut les détruire et créer de nouvelles bouteilles d'eau ou même créer de la fibre textile. Mais certainement, avec ta gourde, c'est beaucoup plus compliqué. Voilà.
Donc il faut qu'on laisse nos anciennes habitudes pour que la pollution régresse. Elle progresse, c'est la planète qui encaisse.
Axel Polony, pourquoi les sacs en plastique polluent-ils ?
Alors, on en revient toujours à la question du nombre. C'est-à-dire que les sacs plastiques, on avait tendance à en donner à tout le monde. Et tout le monde, dès qu'il faisait des courses, avait des sacs plastiques. Et puis, un sac plastique, on l'utilise, on le jette. En plus, ça vole très très bien. Et souvent, il y a des sacs plastiques qui se perdent dans la nature. Alors, quand ils arrivent dans la nature, les sacs plastiques, le problème, c'est que je vous l'ai dit, ils ne vont pas bien se dégrader. Donc, ils vont s'accumuler. Et l'autre problème, c'est qu'il y a des animaux qui, parfois, vont les manger. Parce que quand les sacs plastiques ils tombent dans l'eau, ils sont emportés par les rivières, ils vont jusqu'à la mer. Et puis, on a des tortues qui, dans la mer, vont avaler les sacs plastiques parce qu'ils vont prendre ça pour des méduses. Et après, une fois qu'ils avalent le sac plastique, ils meurent. Et il y a beaucoup d'animaux comme ça qui peuvent souffrir du plastique qui se retrouve dans la nature.
Ruben, pourquoi donc il y a autant de plastique qui est pollué par an, autant? Par exemple, sur 5 ans, il y aura 5000 plastiques qui seront pollués dans la nature?
Alors, si je te comprends bien, en fait, et tu as raison, c'est qu'il y a de plus en plus de plastique qui est produit et qui est utilisé par les hommes, par nous, malheureusement. Et du coup, in fine, il y a de plus en plus de plastique qui se retrouve dans la nature. Parce que plus on en produit, plus il y en a qui est perdu en route, qui n'est pas recyclé, qui n'est pas stocké dans les déchetteries et qui se retrouve dans la nature. Et ça, c'est un vrai problème. Donc, à nous de changer nos modes de consommation pour diminuer nos besoins en plastique. Voilà, je pense que c'est la solution.
Les animaux qui avalent les plastiques, est-ce que les baleines en font partie ?
Tout à fait. Tous les animaux, et de plus en plus, même les hommes, nous, on se retrouve à avaler du plastique. Parce qu'il y a les sacs plastiques, mais on a dit que ça se dégradait, ça se détruisait difficilement. Mais au final, le sac plastique, dans la mer, il se détruit quand même au fur et à mesure des vagues. Il s'émiette, c'est un peu comme un mouchoir en papier, là, et à la fin, il est détruit. Vous savez, c'est toutes les choses qui vieillissent et qui se cassent. Et le plastique, après, il n'y a plus de sacs plastiques, mais il y a des petites miettes de plastique, voire des petites billes de plastique ou des tout petits morceaux de plastique. Et les baleines vont avaler ça, mais les poissons aussi, même les algues ou les micro-organismes. Parce que plus le plastique va se détruire, plus il va devenir petit et plus on va l'avaler. Même si toi, par exemple, tu vas à la mer, tu avales un peu d'eau de mer, ça se trouve, il va y avoir une petite particule de plastique qui va rentrer dans ton estomac.
Moi, hier, à la télé, chez ma tata, j'avais vu un corbeau qui avait mangé des bouchons de bouteilles, des bouteilles et puis des sacs en plastique.
Alors, c'est vrai que ça arrive. Y a des oiseaux qui peuvent être attirés parce que justement, le plastique, il a plein de couleurs. S'il est rouge, s'il est orange ou bleu, parfois, les animaux vont être attirés. Et j'ai vu un reportage où ils montraient des albatros. Les albatros, c'est des très grandes mouettes et qui vivent dans l'océan Pacifique. Et malheureusement, on s'est aperçu qu'il y a des albatros qui meurent parce que ils ont avalé plein de matières plastiques, des bouchons, des petites bouteilles ou autre chose, même des briquets, parce que ils vont tout le temps au-dessus de la mer pour pêcher, et puis le petit morceau de plastique, le petit bouchon, le petit briquet, il flotte, il pense que c'est un petit poisson ou une petite méduse, et hop, il l'attrape, il l'avale, et puis une fois qu'il est dans l'estomac, c'est fini. Il ne pourra plus sortir. Et donc, je pense que c'est comme ta corneille, c'est-à-dire qu'il croit que c'est bon à manger, et puis il l'avale. C'est comme les bébés, hein, d'ailleurs. Hein. Il ne faut jamais laisser des petits morceaux de plastique à côté d'un bébé, parce qu'il va vouloir l'avaler.
Parce qu'une fois, quand j'étais en vacances, j'ai vu un écureuil et il a vu un sac où il a cru peut-être qu'il y avait une noisette et après il a mangé le sac.
Oui, bah ça arrive. C'est pour ça que les animaux, ils connaissent pas eux le plastique. On leur a jamais expliqué. Donc c'est pour ça déjà qu'il faut pas nourrir les animaux sauvages. Mais en plus, il faut éviter qu'ils soient en contact avec les matières plastiques ou tous nos produits à nous, parce que ça peut les intoxiquer ou ça peut les tuer.
Petite pause musicale. Nous allons écouter Kenji Girac avec Claudio Capeo, que Dieu me pardonne.
Il faudrait être des dieux, il faudrait être fort, comme si mouiller des yeux, c'est pour ceux qui ont tort. Il faudrait danser et cacher sa douleur, être le dernier à pleurer, jamais montrer sa peur. Il faudrait être des rois, il faudrait faire le fier, comme si baisser les bras, c'est pour celui qui perd. Il faudrait cogner et puis bomber la torse, être le premier à crier plus fort. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, j'ai le cœur sur la main. Si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain. Il faudrait être un génie, être une onde à la joie, à chaque fois qu'on nous dit, et toi comment tu vas? Il faudrait pousser tous ceux autour de soi, être le premier à crier, regardez-moi. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct. Moi je ne suis qu'un homme, peut-être un bon à rien. Mais que Dieu me pardonne, si parfois j'abandonne, c'est pour faire mieux demain.
Vous écoutez la classe de CM1 de l'école des remparts de Verberie.
Ils ont interviewé M. Marc Baldeck, directeur des CPE de l'Oise.
Merci de nous écouter.
Mélina, en brûlant du plastique, quelles sont les conséquences sur la couche d'ozone?
En brûlant du plastique, à mon avis, c'est pas forcément la couche d'ozone qui va être la plus impactée. À ma connaissance, en brûlant du plastique, eh bien, on va surtout polluer l'air. Et ça, ça va être un problème de santé publique. Parce que les matières plastiques, en brûlant, elles vont créer plein de composés chimiques qui sont toxiques. Et puis, d'autre part, en brûlant du plastique, eh bien, on va émettre ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, du gaz carbonique ou d'autres choses, qui va renforcer l'effet de serre. Donc, mais la couche d'ozone, on en reparlera, je pense. Elle n'est pas forcément impactée par, directement par, par l'action de brûler du plastique.
RVM 93.7.
Vous écoutez les rois de la radio.
Pourquoi l'enseigne Carrefour encourage cette démarche ? Hashtag amène ton contenant.
Eh ben c'est très bien que des chaînes de magasins développent des programmes pour inciter les gens à moins consommer d'emballage et donc à acheter en vrac. Donc ce hashtag amène ton contenant, c'est-à-dire qu'il demande aux personnes de venir dans le magasin, pas seulement avec son sac cabas, mais aussi avec des sacs spéciaux qui permettent d'acheter des aliments en vrac. Alors, qu'est-ce qu'on peut acheter des aliments en vrac ? Je ne sais pas si vous êtes allé déjà dans des... C'est souvent dans les magasins bio qu'on peut acheter des aliments en vrac. C'est des pâtes, des fruits secs ou des légumes secs. Il y a plein de choses qu'on peut acheter en vrac. Il y a aussi les légumes frais hein, qu'on peut acheter en vrac. Et donc, l'idée, c'est d'avoir des sacs qui soient réutilisables et, encore une fois, de limiter le gâchis parce que souvent, quand on achète quelque chose, il est trop emballé. Et donc, ce qui est mieux, c'est d'acheter des articles où l'emballage, en fait, c'est nous qui l'apportons et on l'utilise à chaque fois.
Ruben, que veut dire zéro waste ?
Zéro waste, c'est de l'anglais. Ça veut dire zéro déchet. Et en fait, c'est une association qui travaille à justement développer des programmes pour que le grand public ou que tous les acteurs de la société fassent un effort pour diminuer le nombre de déchets que l'on produit. L'objectif, c'est justement, comme le nom de ce programme, Zero Waste, c'est zéro déchet. C'est de diminuer progressivement les déchets que tout un chacun produit pour arriver à zéro. Bah, parce que je vous l'ai dit, les déchets, ça pollue. Et puis, les déchets ou le plastique qu'on jette, il nécessite des matières premières, du pétrole, de l'énergie pour être fabriqué. Et c'est un gâchis vraiment d'utiliser des choses comme ça rien qu'une fois. Une bouteille d'eau, on la prend, on boit l'eau, on jette la bouteille. C'est du gâchis. Donc, ce qu'il faut, c'est changer nos modes de consommation. Et c'est ce à quoi travaille cette association.
Nos erreurs comme à chaque fois, bâtir un monde meilleur qu'on ne voit pas, épuiser nos ressources, mais de quel droit pour que tourne ce monde.
Pourquoi les matériaux biosources et les ressources fossiles et durables sont-ils plus chers ?
C'est un peu compliqué. Comme je vous l'ai dit, le plastique qui est fait à base de pétrole, actuellement, c'est pas très cher à produire. C'est-à-dire que on sait le faire, on a des bonnes machines et on arrive à produire du plastique pour pas très cher. C'est pour ça qu'on l'utilise un peu n'importe comment et qu'on le gaspille. Par contre, quand on veut fabriquer des plastiques qui sont réalisés à partir d'autres choses que du pétrole, là c'est un peu plus compliqué. Parce qu'on a construit des nouvelles machines, on ne sait pas trop encore comment faire. Et puis souvent la ressource au final... issue de matière organique, eh bien, elle est plus chère que le pétrole. Alors, in fine, au final, ça coûte plus cher. Encore aujourd'hui, tout ce qui est fabriqué avec des ressources énergétiques durables, avec plutôt de l'énergie éolienne, de l'énergie solaire ou de l'énergie hydraulique, hein, eh bien, ça coûte plus cher que les ressources énergétiques traditionnelles issus de carburants fossiles.
Ruben,
Mais les ressources, ce serait un peu normal qu'ils coûtent plus cher vu qu'ils fabriquent une nouvelle machine, comme vous avez dit.
Oui, tout à fait. C'est en fait le problème auquel on est confronté. Nous, les écologistes, on veut que le système change pour ça soit plus en faveur de l'environnement et que ça soit plus durable. Mais dans un premier temps, quand il faut changer, bah, ça coûte plus cher, c'est difficile, parce qu'il faut inventer des nouvelles choses, il faut construire des nouvelles usines, il faut changer même toutes nos pratiques et nos habitudes. Et dans un premier temps, c'est vrai que c'est difficile ou ça coûte plus cher. Mais le pari que l'on fait, c'est que à moyen terme ou à long terme, ça soit un pari gagnant, que de toutes les manières, on pense qu'on n'a pas le choix et que même si ça coûte plus cher parfois, faudra faire autrement parce qu'on ne peut pas continuer à gaspiller, à gâcher les ressources et à détruire la planète.
Lucas, quels moyens pourrait-on faire pour trouver de nouvelles ressources pour en fabriquer mais pas polluer la Terre ?
Alors ça, c'est vraiment la question, hein, 1 milliard, hein, c'est vraiment la question, l'une des questions les plus importantes, parce que comme j'ai répondu à la question là sur les ressources pétrolières qui diminuent, il y a une vraie problématique des ressources fossiles qui ont tendance à disparaître, et nos sociétés ont besoin quand même d'énergie pour vivre, et il faut qu'on trouve de l'énergie qui permette à nos sociétés de fonctionner, mais qui ne mette pas en danger la planète dans laquelle on habite. Et donc, c'est vraiment pas facile. En fait, il n'y a pas visiblement de solution miracle. Ce qu'il faut, c'est déjà économiser l'énergie, être moins gourmand et être moins gaspilleur d'énergie, d'une part. Et puis, dans un deuxième temps, c'est vrai, développer les énergies renouvelables. Certainement le solaire, l'hydraulique. Il y a peut-être des nouvelles inventions à faire pour obtenir de l'énergie, soit de la mer, soit de l'énergie, la géothermie, l'énergie du sol, parce qu'on sait que vous connaissez les volcans, le fond de la Terre, il est très chaud et peut-être qu'il y a de l'énergie là à capter. Et puis il y a toute l'énergie du soleil tous les jours. Le jour se lève et quand il n'y a pas de nuages, il y a du soleil. Et ça, c'est vraiment des énergies sur lesquelles il faut travailler, il faut étudier pour trouver des solutions.
Elio, que veut dire privilégier et la vente en vrac ?
C'est comme pour les magasins dont on parlait tout à l'heure. C'est privilégier la vente en vrac, c'est privilégier le fait d'acheter des produits qui sont pas emballés et on achète juste ce dont on a besoin. Donc c'est comme t'as une sorte de grosse silo où simplement t'as une petite poignée, tu mets un petit récipient en dessous et puis tu fais dégringoler, tes céréales, ton riz, tes pâtes, tes légumes secs ou le raisin sec. Et puis tu emballes ça et voilà, t'achètes en vrac. Et donc l'idée c'est vraiment de diminuer les emballages pour qu'il y ait moins de gaspillage.
Léa, que veulent dire les adjectifs biodégradables et non biodégradables ?
Biodégradable ou non biodégradable, c'est simple en fait. Biodégradable, c'est ce qui est dégradable, ce qui est possible d'être détruit par des processus naturels, c'est-à-dire par les plantes, les champignons, les bactéries, les animaux vont pouvoir détruire. Et quand c'est détruit par le vivant, eh bien c'est biodégradable. Quelque chose qui n'est pas biodégradable, c'est au contraire quelque chose que la nature ne va pas pouvoir digérer, ne va pas pouvoir manger. Et ça, c'est le cas de beaucoup de plastiques et de matières synthétiques produites par l'homme.
Melvin, combien de temps prend un sac à se dégrader dans la nature ?
Alors, un sac plastique, je vous disais que ça vivait longtemps dans la nature. Eh bien, on dit que ça met jusqu'à 300 ans pour se dégrader. C'est très important. Alors, heureusement, maintenant, il y a de plus en plus de sacs plastiques qui sont moins solides qu'avant, qui sont soit biodégradables, soit photodégradables, c'est-à-dire qu'ils se dégradent à la lumière du soleil. Et donc, Heureusement, si malheureusement ce sac plastique va dans la nature, bah, il sera dégradé beaucoup plus rapidement qu'avant. Voilà.
Ruben, c'était pour dire que dans la nature, c'est vrai que ça prend 300 ans, mais il y a des sacs aussi qui sont fabriqués en végétal.
Tout à fait, c'est ce que je disais. Il y a différents types de sacs. Il y a des législations qui sont passées. Donc c'est l'État qui essaie de faire changer les choses. Et c'est bien comme ça. Et donc il y a de plus en plus de sacs qui sont quelque part fragiles, pas très durables et qui se dégradent beaucoup plus vite dans la nature. Tu parlais de sacs qui étaient fabriqués avec des matières végétales. Et bien, bizarrement, tout comme avec le pétrole, parfois on arrive à fabriquer des matières plastiques, même avec du maïs ou autre chose. Et au final, et ben ça va poser des problèmes parce que ça ne va pas forcément être biodégradable. Alors, même si c'est fabriqué avec des éléments naturels, le produit final, eh bien, il va être tellement transformé que la nature ne saura pas le digérer. Et donc, c'est un problème. Et on en revient, peut-être que la solution, c'est vraiment ces emballages réutilisables et acheter en vrac et diminuer vraiment à la source les emballages.
Les rois de la radio.
Eh bien, merci à vous de m'avoir posé des questions qui étaient très intelligentes. J'ai eu beaucoup de plaisir à répondre à vos questions. On voit que vous y intéressez, vous intéressez vraiment à tous ces sujets. Et donc, continuez à travailler avec votre professeur. Et si vous avez envie d'en savoir plus sur la nature, la biodiversité, n'hésitez pas à demander à votre professeur. Je reviendrai ou un de mes collègues reviendra avec plaisir pour qu'on vous présente un peu la nature, les animaux, les fleurs et qu'on vous explique plein de choses parce que la nature, c'est vraiment ce qu'il y a de plus joli sur Terre.
Rendez-vous la semaine prochaine aux mêmes horaires sur RVM pour la suite de l'interview de M. Baldec.
On parlera de l'article « Bonne nouvelle pour la planète ».